Qu'est devenu Monsieur Martin après la mort de son épouse? Eh bien, il a accepté très généreusement de quitter tous ses amis pour s'installer à Lisieux. Son beau-frère, le frère de Madame Martin qui venait de mourir, Isidore Guérin, le pharmacien, a proposé à son beau-frère devenu veuf de déménager à Lisieux pour que les enfants puissent bénéficier de la sollicitude maternelle de sa femme, hein, de Madame Guérin, l'épouse du pharmacien. Donc, s'arracher, il avait 54 ans, le papa, c'était assez difficile pour lui de déménager, mais il l'a fait pour ses filles. Et c'est ce qui fait qu'effectivement, les petites Martin et les petites Guérin se sont souvent rencontrés le jeudi après-midi pour jouer ensemble. Bon. Qu'est-ce qu'il faisait à Lisieux, buissonner dans cette petite maison que M. Guérin a eu bien du mal à découvrir parce qu'il n'y avait pas tellement de maisons libres à l'époque? Eh bien, il a géré sa fortune tout en continuant à mener une existence quasi monacale. C'est lui qui fait le jardin, qui scie et range de bois de chauffage, qui fait son cidre. Il mange très frugalement. Il aime toujours autant les voyages. D'ailleurs, en compagnie du vicaire de Saint-Jacques, il se rend même en 1885 jusqu'à Constantinople avec le fameux Orient Express. Fallait être assez fortuné pour faire un tel voyage. Il communie tous les jours, ce qui est rare à l'époque, mais il avait obtenu cette permission de son confesseur. Il pousse son beau-frère à fonder à Lisieux l'œuvre de l'adoration nocturne, et il en assure les heures les plus difficiles, 2 heures du matin. Il fait partie de la conférence Saint-Vincent de Paul, s'occupe beaucoup des écoles catholiques de la ville et ne ménage pas ses aumônes. Il est volontaire pour éteindre les incendies, les pompiers n'existaient pas à l'époque. Et tous les jours, il fait une visite au Saint-Sacrement avec sa petite Thérèse. Thérèse a fait des kilomètres à pied avec son papa pour visiter toutes les églises des environs. Il continue à être très généreux. Un jour, le curé de la cathédrale propose à ses paroissiens d'organiser une grande collecte pour remplacer l'autel de la cathédrale qui lui semblait trop vétuste. On va acheter un bel autel en marbre pour la cathédrale, ça mérite ça. Bon. Monsieur Martin va au presbytère et dit à l'archiprêtre, continuez votre souscription, ça pourra permettre, ça assurera les autres œuvres, mais je vous paye cash l'autel, 10 000 francs or. Plus tard, quand il deviendra malade, il dira dans un moment de lucidité, ce n'était pas le tout d'offrir l'autel, il fallait aussi la victime et je suis heureux que le Seigneur ait accepté mon sacrifice. Nous reviendrons éventuellement là-dessus. Bon, donc, voilà ce qui se passe. Il accepte généreusement, vous savez, le départ de ses filles pour une vie cloîtrée, ce qui ne l'empêche pas d'animer gaiement les veillées des buissonnés, de chanter, de réciter des poèmes et de manier l'humour. C'était un homme à la compagnie très agréable. Il invitait volontiers du monde à sa table où il sonnait, où il se laissait inviter par les autres. C'était quand même pas un ours, pas du tout. Et alors, vous le savez, à la fin de sa vie, sa santé s'est considérablement dégradée. Si l'on accepte un épithélium consécutif à une piqûre de mouche et dont il a souffert pendant 3 ans et demi, Louis Martin a toujours joui d'une excellente santé. Combien de pèlerinages n'a-t-il pas effectué? Mais le 1er mai 1887 a lieu une première alerte. Sa jambe gauche se paralyse et sa parole s'embrouille. L'année suivante apparaissent des symptômes plus inquiétants, des pertes de mémoire, des oublis. Il apparaît parfois en tenue négligée alors qu'il était toujours très correctement vêtu. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, l'année précédente, Thérèse a hésité à confier à son papa son désir d'entrer jeune au Carmel. Elle a profité d'un moment où le papa était en train de se reposer dans le jardin l'après-midi de la Pentecôte pour lui confier son désir. Et le papa a très bien réagi. Mais l'année suivante, donc aussitôt l'entrée de Thérèse au Carmel, ça se dégrade considérablement. Le 23 juin 1888, c'est le drame. Monsieur Martin a disparu. On ne sait pas où il est. On le retrouve au Havre, prêt à s'embarquer. Il avait sans doute l'idée de partir rejoindre le père Pichon qui était au Canada. Il a perdu la tête, quoi. Sa famille vit désormais dans la peur lancinante d'une nouvelle crise. Le 10 janvier 89, on n'est pas rassuré lors de la cérémonie de prise d'habit de Thérèse. La prise d'habit, c'est quand on prend l'habit du Carmel et qu'on commence son noviciat. Ne va-t-il pas troubler par ses cris la cérémonie de la prise d'habit? Heureusement, tout se passe bien. Mais alors, un mois plus tard, c'est le drame. Il avait acheté un revolver parce qu'on avait cambriolé aux alentours des Buissonnets. Il vivait dans l'obsession que la persécution religieuse allait revenir. Il était prêt à accueillir des prêtres réfractaires aux Buissonnets. Et il pense qu'il doit défendre ses enfants contre des adversaires. Il a acheté un revolver et comme c'est une force de la nature, on n'arrive pas à le décharger. Il est grand temps de l'enfermer. Alors M. Guérin intervient assez brutalement, assez énergiquement. Il fait venir l'un de ses amis. On lui fait croire qu'on va faire une petite promenade touristique à Caen et on l'enferme vite fait bien fait à l'asile, sous le matricule 14449. Avec le motif suivant, on a pu obtenir, malgré le délai de 100 ans qui garde le secret médical, voici ce qui est écrit sur le registre d'inscription de M. Martin à l'asile de Caen, manifestation délirante avec détention d'armes. Tous les médecins qui se sont penchés sur le dossier pensent que l'origine de sa maladie est une artériosclérose avec des poussées d'urémie. Aucun médecin sérieux n'a dit qu'il était question de syphilis.